L'économie en question, bonjour à tous, Dominique Rousset en compagnie de quatre experts, professeurs ou chercheurs et chercheurs, pour leur demander de commenter l'actualité de la semaine, de confronter leurs analyses pour les rapprocher, les opposer, autour de deux sujets que nous avons choisis comme chaque samedi dans l'actualité nationale et internationale, européenne en l'occurrence. Sans surprise, en effet, notre premier débat sera autour des budgets nationaux présentés cette semaine pour approbation à la Commission européenne et autour de ce petit, nos invités en jugeront, petit ou grand coup de théâtre, après des semaines de déclarations contraires, l'annonce lundi par la France et par l'Italie de modification de leurs projets budgétaires, aussitôt qualifiés par Bruxelles d'utile et constructif. Je parle des modifications. De son côté, le Royaume-Uni, ce même lundi, par la voix de son Premier ministre David Cameron, protestait avec force contre une rallonge demandée par la Commission suite à un nouveau calcul, un peu confus d'ailleurs, des contributions nationales liées à une révision des chiffres du produit intérieur brut en Europe. On va expliquer tout cela. Mais Londres ne paiera pas, nous a dit David Cameron. Nous verrons ce qu'il en est par la suite. Retour sur donc ces nouvelles péripéties sur les rapports toujours compliqués entre défis et soumissions que les États entretiennent avec l'Union européenne et avec des règles qu'ils ont contribué à instaurer. Tout ceci dans un contexte de prise de fonction, c'est aujourd'hui même, de la nouvelle Commission européenne. Voici donc notre premier thème, l'Union européenne et les budgets nationaux, les vrais et les faux frondeurs. Et notre deuxième sujet, nous revenons en France quelques jours après la manifestation contre le projet d'un barrage à Sivens et son issue dramatique dans le Tarn. Il en a déjà été question ici même ce matin. Et à la suite aussi de la condamnation au début de semaine, c'était mardi, de 9 militants de la Confédération paysanne par le tribunal correctionnel d'Amiens à des peines allant jusqu'à 5 mois de prison avec sursis pour la destruction, on s'en souvient, de la salle de traite de la ferme dite des 1000 vaches. Dans les deux cas, on pourrait trouver d'autres situations peut-être moins spectaculaires, des projets liés à l'agriculture, à une autre conception, à une certaine conception de l'agriculture, celle qui prévaut aujourd'hui en France, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays, mais qui est aussi de plus en plus questionnée. Contestée pour ses excès, pour la qualité de ses productions, ses atteintes à l'environnement et au bien-être animal, défendue par d'autres comme la seule voie possible. Dans le cas de Sivens, agriculture irriguée contre filière courte, dans le cas de la ferme de Ducras et dans la Somme, élevage industriel contre élevage en pâturage, c'est un débat très important, économique, autant qu'écologique, auquel la France et l'Union européenne d'ailleurs ne peuvent se dérober pour l'avenir. Quel modèle agricole pour la France? Et l'on rappelle que la loi sur l'agriculture, dans le projet de loi de finances, a été présentée pour 2015, donc a été présentée le 13 octobre dernier. Ce sera donc notre deuxième thème. Et nous sommes ce matin en compagnie de Patrick Artus, directeur des études à Natixis, Nicolas Bavray, historien et économiste, Benjamin Coriat, professeur d'économie à l'Université Paris 13 et co-président des économistes atterrés, et Dominique Plion, professeur également à l'Université Paris 13. Lui, c'est de l'économie financière et porte-parole d'Attac. Aucun de vous quatre, ou tenez à ce que je le précise d'ailleurs, n'est spécialiste d'agriculture, mais il vous est arrivé à tous les cas de vous exprimer à plus d'un titre sur ces thèmes, et on verra dans quelles circonstances. On n'oublie pas nos actualités invisibles en toute fin d'émission, celles que vous aurez repérées pour nous. Bienvenue à tous les quatre et bienvenue à tous. C'est l'économie en question. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. On commence donc par le sujet européen, si vous le voulez bien. La Commission européenne, qui a donc qualifié mardi les modifications de dernière minute apportées la veille par la France et l'Italie d'utiles et constructives. Et donc c'était une mise en conformité des budgets nationaux aux règles européennes. Un exécutif qui avait jusqu'à mercredi pour évaluer les projets des budgets nationaux. Et son porte-parole nous dit « Nous saluons le fait que ces États membres se soient eux-mêmes engagés dans un processus de dialogue avec la Commission ». Voilà pour les faits. Paris a annoncé une modification de ses projets budgétaires de 3,6 milliards à 3,7 milliards d'euros d'économies supplémentaires. On verra à quoi cela correspond, tout en nous disant par ailleurs que les fameux 20 milliards n'étaient pas touchés. Vous allez nous expliquer tout ceci. Quant à l'Italie, elle a proposé 4,5 milliards d'euros d'économies supplémentaires à Bruxelles. Mais elle ne dispose pas des mêmes conditions. On va peut-être y revenir là aussi. Peut-être avant de rentrer dans le détail de ces budgets, qui sont évidemment le point central de notre débat, que dire de ces petits jeux de... un peu de crise de nerfs de part et d'autre, d'intimidation, de refus de soumission aux règles européennes pour finalement s'y plier. Voilà, j'aimerais savoir si vous jugez cela sévèrement ou pas, si cela doit faire partie, au fond, d'un jeu entre État et Commission. Benjamin Coriat.
Oui, je veux bien commencer. Bon, d'abord, ce n'est pas une nouveauté, c'est-à-dire que les tensions entre les États nationaux et Bruxelles sur différents sujets, ce n'est pas une nouveauté. Mais c'est vrai que là, ça mérite attention, même si ça a un côté un peu farce, puisque finalement, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça mérite un peu d'attention, pourquoi ? Parce qu'on est dans une situation post-traité budgétaire de 2012, imposant un retour, non pas à 3%, comme on l'entend partout, mais un retour à 0% de déficit budgétaire. 0,5, oui. 0% structurel avec une tolérance de 0,5. Oui. Mais enfin, quand même, la nouveauté, par rapport à Amsterdam, c'est de passer de 3% à 0%, ce qui était quand même une innovation considérablement intelligente, une fois qu'on avait observé qu'à 3%, ça ne marchait pas. Bon. Donc, c'est pour ça que ça vaut la peine, parce qu'on s'aperçoit que ça ne marche pas du tout, que pratiquement, enfin, à part quelques pays, dont l'Allemagne, bien sûr, personne n'est capable de tenir cette limite, d'où ce jeu de tension. Le jeu de tension portant non pas sur les 3%, mais sur au-delà des 3%, on fait quoi, qui fait quoi. Donc voilà, pour cette raison, ça vaut la peine d'être mentionné, parce qu'il s'avère quand même que le traité est largement inapplicable, en tout cas sous la forme et dans les délais dans lesquels les retours aux équilibres étaient prévus. La deuxième raison, c'est parce que on voit bien que à la fois on signe des traités, mais à la fois que j'ai envie de dire d'une certaine manière, puisque je suis quand même européen, les mauvaises habitudes de gestion par le Conseil des présidents plutôt que par la Commission se poursuivent. Et donc, d'une certaine manière, les différents États membres se sentent pas véritablement tenus par les traités, même s'ils proclament le contraire, bien sûr. Parce qu'ils ont l'habitude de régler entre eux les choses, si je peux dire. Voilà, donc tout ça est assez embêtant, parce que ça indique à la fois que les orientations que se sont données les États membres à travers le traité ne sont pas bonnes, et à la fois que la structure de gouvernance européenne, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle flotte très considérablement. Oui. Et tout ça, ce n'est pas des bonnes nouvelles.
Et puis, il y a effectivement... D'abord, il faut rappeler que la Commission n'a jamais encore utilisé cette arme de sanctions contre des États qui ne présentaient pas des budgets conformes. Donc, on peut se demander, au fond, si cela sera arrivé ou pas. Est-ce qu'on était dans un risque de conflit ouvert ? C'est moins que certain. Un scénario assez humiliant. Qu'avez-vous à en dire ? Tout le monde veut en parler. Non, mais, Nicolas, pour faire le pendant peut-être de Benjamin.
Il y a une étrangeté Nicolas Bavray. Politique, c'est que... cette procédure était utilisée pour la première fois. Et c'est vrai que, normalement, c'était la première application du traité, donc c'est un moment important. Et la commission qui doit mettre en œuvre cette procédure pour la première fois est une commission finissante, puisque aujourd'hui, d'ailleurs, la nouvelle commission...
La nouvelle prend ses fonctions
donc,
aujourd'hui.
Il est clair qu'on avait cette espèce de paradoxe entre une procédure qui est censée être un peu la pierre angulaire de ce traité, et puis une commission finissante qui n'avait certainement pas la légitimité ni l'envie d'aller sanctionner la France et l'Italie. D'où le jeu de rôle, et ça c'est tout à fait vrai. Donc pour la France, on avait déjà 21 milliards d'économies qui n'étaient pas documentées pour l'essentiel. On a rajouté, donc, soi-disant, pour donner satisfaction à la Commission, 3,6
milliards. Oui, ça paraît presque dérisoire par rapport au débat engagé.
Qui sont d'abord, mais surtout dans le contenu...
Ça permet de sauver la face.
Dont le contenu est totalement fantaisiste, puisqu'on a 400 millions de dépenses en moins sur le service de la dette à cause de la baisse des taux. Or, avec le mouvement de la Fed, on peut plutôt prévoir que les taux vont peut-être plutôt augmenter. On a ce qui est 300 à 500 millions de diminution diminution de la contribution française à l'Union européenne et 900 millions de recettes liées à la lutte contre la fraude fiscale. Donc, on est tous pour la lutte contre la fraude fiscale, mais personne ne sait combien ça rapporte à l'avance. Donc, ça montre bien le caractère fictif. Alors, derrière, je crois que la vraie question, et c'est vrai que là, il y a quelque chose de sérieux, si ça s'est concentré quand même sur la France et l'Italie qui s'en tirent par deux tours de prestidigitation, c'est que on est bien au cœur du problème européen qui est que tout le monde cherche un nouvel équilibre de politique économique avec un vrai quantitative easing de la BCE, c'est-à-dire le rachat de titres, y compris de dettes publiques, avec un étalement dans le temps de l'équilibre budgétaire, parce que c'est vrai que la trajectoire initiale ne pourra pas être tenue, mais en échange de réformes structurelles. Et les deux pays clés sont la France et l'Italie. Cette procédure était censée pousser vers la bonne direction, et pour l'instant, en réalité, on est toujours au point de départ.
Voilà pourquoi, oui, ces deux pays étaient dans collimateur de l'éplion, bien sûr.
Qui prolonge, mais qui est peut-être un petit peu différente. Je pense qu'il y avait un problème au départ de crédibilité face à une nouvelle procédure, évidemment, qui se mettait en place, et donc il ne pouvait pas être envisagé que la Commission recule face aux soi-disant absence de solutions proposées par les gouvernements français et italiens. Et donc, pour sauver la face, c'est le mot qu'a employé tout à l'heure Benjamin Correa, je suis d'accord, pour sauver la face, il fallait qu'à la fois la Commission puisse maintenir sa position exigeante et qu'à la fois le gouvernement français, en direction notamment d'ailleurs de son opinion publique intérieure, disant « moi, j'ai fixé une limite à 21 milliards, je n'irai pas plus loin ». Et donc, chacun voulant sauver la face, on est arrivé à ce compromis boiteux. Mais je pense qu'il y a un élément de plus qui me paraît intéressant de mentionner, c'est qu'en réalité, si la Commission a accepté cela, alors qu'en fait, au départ, elle demandait probablement des efforts plus importants, c'est que je crois qu'il y a une prise de conscience au niveau de la Commission et un certain nombre d'États, dont l'Allemagne, de l'échec de la politique qui est menée depuis 4 ans maintenant au minimum, c'est-à-dire la politique de rigueur, de déréglementation,
qui autorisait entre guillemets ces gouvernements.
Je pense qu'on va vers le début d'une inflexion. On ne va pas le dire parce que la doxa est sacrée, mais je pense qu'on va vers le début d'une inflexion parce qu'on s'est rendu compte que cette politique fait que la zone euro est la zone du monde la plus déprimée, l'Union européenne aussi, qu'il y a vraiment un taux d'investissement, il y a un investissement qui chute plus qu'ailleurs, c'est l'échec. Et les pays n'arrivent pas à redresser leurs comptes, donc c'est l'échec, et je crois que c'est le début, probablement, d'une prise de conscience, on ne veut pas le dire, mais je pense que
alors,
c'est ça.
Avançons effectivement sur ces budgets, d'autant que le Conseil européen, parallèlement, demandait aussi à la chancelière allemande, Angela Merkel, d'assouplir un peu, d'essayer d'agir pour accroître l'investissement public dans la zone euro, enfin de changer un petit peu,
elle
aussi, d'infléchir.
Et d'abord en Allemagne, où l'investissement est en chute libre.
Voilà. Patrick Artus, pour avancer là aussi sur cette question.
Je voudrais juste dire que je suis en désaccord complet avec ce que vient de dire Dominique Plion. Les problèmes de la zone euro,
ce n'est
pas une surprise. Les problèmes de la zone euro sont absolument pas des problèmes de demande. En Allemagne, c'est un problème démographique. On partira peut-être de l'Allemagne tout à l'heure. L'Allemagne ne stimulera pas son économie parce qu'elle n'en a aucun besoin. C'est un pays vieillissant au plein emploi.
Mais le Conseil lui demande.
Le niveau d'investissement des entreprises allemandes est 25% plus élevé que celui des entreprises françaises. Oui, donc on arrête de dire que les entreprises allemandes sous-investissent.
Mais tout le monde est d'accord, y compris même en Allemagne, pour dire que les infrastructures sont dans un état catastrophique.
Il y a besoin de quelques milliards d'euros dans les routes.
Ce que tu vas nous dire dans une minute, il y a un problème démographique en Allemagne et donc il faut protéger l'épargne, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'investissement en direction d'une politique nataliste. Vers l'encadrement.
C'était Benjamin Correa. Patrick Artus poursuit.
Sans parler, Patrick.
Non, je pense qu'en tout cas, les Allemands, qu'on le veuille ou pas, ne feront rien. Et ils feront rien parce qu'ils n'ont aucun besoin de stimuler leur économie.
Et donc, ils n'ont pas l'esprit européen.
L'Allemagne ne peut plus être le moteur de la zone euro. C'est un pays à nouveau vieillissant au plein emploi. Un pays vieillissant au plein emploi ne peut pas stimuler son économie. Il n'a qu'une envie, c'est d'être sûr de payer ses retraites. Donc ils ne feront pas de déficit et ils n'ont pas besoin de relancer leurs investissements. Et donc c'est une illusion. Ce débat avec l'Allemagne est complètement dérisoire. Je voudrais dire après, revenons au sujet fondamental, que ce qu'on a vu quand même dans les dernières semaines est assez pitoyable. D'abord, les projections à l'horizon 2017 des budgets sont à des kilomètres de ce qui va se passer. D'ailleurs, la France prétend qu'elle aura...
L'échec des politiques.
J'ai pas dit ça non plus. La France prétend qu'elle aura 4% de croissance nominale en 2017. Si on a 2, ça sera formidable. Donc la réalité sur laquelle il faudrait se pencher, c'est que le mouvement que nous avons aujourd'hui va amener le déficit public de la France à 5% du PIB en 2017. Mm-hmm. Et il faudrait qu'on ait une... Et là, je prétends pas du tout détenir la vérité. Je dis qu'il faudrait qu'on ait une réflexion sérieuse sur le fait de savoir si on peut faire ça ou pas. Est-ce que c'est risqué ou pas? Mais on n'a pas cette discussion sérieuse puisqu'on fait semblant qu'on va revenir en dessous de 3%. Donc déjà, si on travaillait avec les vrais chiffres, ça serait un immense progrès dans le débat.
Là-dessus, vous êtes tous d'accord tout de même.
Oui, oui. C'est les diagnostics. Oui. Qui
sur le motif pour lesquels on ne va pas arriver à ces chiffres, on ne sera pas d'accord.
Ce que je veux dire par rapport à la majorité de blocage d'attaque autour de la table, c'est que la politique budgétaire de la zone euro est déjà monstrueusement expansionniste. Il ne faut pas croire qu'elle est restrictive. Elle est déjà monstrueusement expansionniste. Et ça ne produit rien.
Trappe de liquidité.
Donc, ce qui devrait poser une question, c'est qu'elle est expansionniste et que ça ne produit pas de résultats, et pas dans l'autre sens. Deuxième sujet, on est resté dans la magie du chiffre. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout essayé de regarder ce qu'on faisait avec les déficits publics. Évidemment, avoir des déficits publics qui couvrent les dépenses courantes des collectivités locales et le déficit de la santé, ce n'est pas la même chose que des déficits publics qui financent des investissements. La Commission est restée dans une analyse extrêmement superficielle. Et ça, c'est quand même extrêmement regrettable. Et puis, troisième point, je pense qu'il faut qu'on ait un autre débat de fond qui est là, implicitement aujourd'hui en Europe. Et là, je vais me retrouver d'accord avec la majorité agissante autour de la table. Implicitement en Europe, on pense quand même qu'une politique monétaire ultra expansionniste est moins dangereuse qu'une politique budgétaire expansionniste. Parce que la théorie implicite, c'est bien qu'il faut réduire les déficits publics et qu'en attendant que les réformes structurelles produisent leurs effets dans plusieurs années, on va demander à la BCE de tenir l'économie européenne. Ceci est extraordinairement dangereux. On va inonder l'Europe de monnaie, on crée des distorsions incroyables sur les taux d'intérêt, on a des taux d'intérêt négatifs, etc. Et ce qu'il ne faudrait pas se dire que finalement, on en demande beaucoup trop à la politique monétaire.
Ça veut dire, Patrick Artus, que la politique adoptée par la BCE depuis quand même plusieurs mois maintenant vous inquiète, au fond.
Il ne faut pas lâcher dans le temps de liquidité.
Complètement d'accord avec. Oui.
Vous n'avez pas toujours dit ça. Il me semblait que vous aviez salué les efforts de Mario Draghi.
La politique monétaire a atteint son seuil d'impuissance, c'est-à-dire avec des taux proches de zéro, avec ce qu'on appelle un phénomène de trappe de liquidité, c'est-à-dire toutes les injections de liquidité que fait la Banque centrale ne vont pas dans la sphère réelle de l'économie, pour parler rapidement, et donc n'ont pas d'impact sur la possibilité de sortie de crise.
Pardon de mes questions naïves, mais puisque les États-Unis le font et ça semble leur réussir.
Mais non, ils ont eu une politique budgétaire beaucoup plus expansionniste que la nôtre. Et c'est ça la différence, c'est que l'Europe, on a une politique budgétaire...
Ils sont pas à 3% de déficit public, les États-Unis.
Qui pèse sur la croissance.
Si, si. Les États-Unis sont revenus grâce
à la croissance. Voilà. Mais ils ont commencé par creuser leur déficit.
Absolument.
C'est ça la différence avec la politique suivie en Europe.
Les États-Unis ont procédé en trois temps. Premièrement, une politique monétaire ultra-expansionniste pour se donner du temps. Deuxièmement, la reconstitution d'une offre productive avec l'effort sur la productivité du travail, sur le coût d'énergie, sur le coût du capital et sur l'innovation. Et ensuite, dans un troisième temps, l'ajustement budgétaire avec le passage de 10 à 2,9% du PIB de déficit depuis 2011. Donc, cette politique, elle a de fait produit des résultats qui sont positifs, puisqu'aujourd'hui, alors il faut faire attention, c'est des chiffres annualisés. Oui. Les 3,5 de croissance, évidemment, c'est surestimé. Mais on a quand même créé 10 millions d'emplois.
Bien quand même.
On a un taux de chômage qui est revenu à 5,9%. Donc, c'est vrai que ça a marché. C'est plus facile quand on a le dollar, mais ça a marché. Oui. Il est vrai que pour l'Europe, on a de toute manière un problème fondamental d'axe de cette d'absence de lisibilité, de continuité de cette stratégie. Et ce qui est vrai, c'est que si on fait de l'ajustement budgétaire immédiatement et tous ensemble, évidemment, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que je crois, contrairement à ce que dit Patrick Artus, que malheureusement, on a fait ça avec 5 ans de retard. Les Japonais, c'était 10 ans de retard, mais nous, on s'est mis... il a fallu attendre que Mario Draghi arrive à la tête de la BCE, si son prédécesseur avait réussi à augmenter les taux d'intérêt en 2008 et 2011, ce qui était quand même ahurissant. Donc, on a une politique monétaire qui démarre avec retard, mais on a besoin de se donner du temps pour traiter nos problèmes d'offres. Et effectivement, si on le fait, à ce moment-là, on peut se donner du temps pour l'ajustement budgétaire.
Merci Nicolas Bavrès et ses explications. On est toujours dans ce pendant entre l'offre et la demande.
Nous avons une union monétaire, en particulier, si on parle de la zone euro en particulier, qui marche sur une seule jambe. C'est-à-dire, on marche que sur la politique monétaire, et on se met un boulet au pied. On décide de ne pas utiliser la politique budgétaire. Non seulement au niveau des États nationaux, mais au niveau fédéral. Ce qui fait la différence entre les États-Unis et la zone euro, c'est qu'ils ont une politique fédérale. Nous avons une politique purement nationale de pays qui tire à hue et à dia, et en plus ne joue pas un jeu coopératif. L'Allemagne est dans un jeu non coopératif. Donc, avec cela, on est certain de rester. On va probablement avoir la décennie perdue en termes de développement et d'emploi qu'a eu le Japon. Le Japon en a tiré les conséquences et mène aujourd'hui une politique keynésienne.
Il va de mieux en mieux. C'est ce qu'on vient de nous annoncer cette semaine. Patrick Arthus lève les bras du ciel.
Je voudrais dire deux choses.
Benjamin Coria, puis après j'aimerais que Patrick ait le temps de s'expliquer.
Il nous dira ce qu'il a à nous dire. Je lui fais pleinement confiance. Deux choses. Par rapport à ce que disait Nicolas Bavrez, je suis sur le fond tout à fait d'accord. C'est-à-dire que la très grande différence entre l'Union européenne et les États-Unis, c'est que d'une part, on a commencé notre quantitative easing, la politique monétaire facilitante, avec beaucoup de retard. Et d'autre part, on ne l'a pas couplé avec de la politique budgétaire. Ce qu'ont fait les États-Unis beaucoup plus tôt que nous, ils ont commencé par creuser leur déficit budgétaire pour pouvoir relancer un peu de croissance. Et maintenant, ils reviennent vers des zones d'équilibre. Ce que nous on n'a pas fait du tout. Donc c'est un problème tout à fait considérable, parce que si on fait du quantitative easing avec le pied sur le frein de la croissance, on risque de créer des bulles, on risque de créer des situations extrêmement négatives pour l'économie. Donc, deuxième...
Rapidement, Benjamin Coria.
Ça va.
Une seule alors. Patrick Arthus, qui a donc levé les bras au ciel et qui fait des signes de dénégation.
Non, monsieur, je voudrais qu'on ferait comme
tout utilise, ce qu'il entend.
Qu'on utilise les vrais chiffres. La consommation des ménages japonais est à moins 6% sur un an. Personne. Donc on ne dise pas que le Japon allait très bien jusqu'à ce que Abe s'en mêle. La politique monétaire du Japon, c'est une catastrophe absolue.
Abe, nouveau Premier ministre.
Personne n'a parlé d'Abe nomique.
On a parlé d'Abe. Revenons à l'Europe. Quelle est la différence essentielle avec les États-Unis? Il y en a une, on l'a tous dit, qui est vraie, c'est qu'on peut faire du quantitative easing, c'est-à-dire pour nos éditeurs, créer plein de monnaie. Hein. Quand les taux d'intérêt sont trop élevés, quand les prix des actifs financiers sont effondrés, ce qu'ont fait les Américains en 2009. Aujourd'hui, dans la zone euro, l'Allemagne se finance à 10 ans à 0,8% et la France à 1,2%. On ne fait pas du quantitative easing quand les taux d'intérêt sont au plus bas. On peut le faire, mais ça ne sert absolument à rien. Qu'on m'explique ce que ça va apporter à l'économie européenne que les taux allemands descendent à 0,6%. Donc le timing est catastrophique, là on est tous d'accord. Deuxième point, il faut comme se rendre compte que l'énorme différence, c'est l'offre. Les États-Unis ont fait repartir l'industrie par l'offre, avec les salaires plus bas, la réduction considérable des charges sociales des entreprises, la baisse du prix de l'énergie, les États-Unis se réindustrialisent. S'il n'y avait pas ça, les États-Unis iraient très très mal.
Mais Patrick Arthus oublie un point, il y a une autre différence qui est très extrêmement importante, c'est la politique budgétaire n'est pas de même nature. Il y a une politique budgétaire fédérale qui a un impact ça a été décisif dans la reprise américaine.
La France en 2009...
Mais non, en Europe, on n'en a pas, on a un budget de 1% du PIB européen.
Mais la France en 2009 avait un déficit public de pratiquement 8% du PIB.
On n'a pas de politique budgétaire.
Dit qu'on n'a pas fait de petit budget d'expansionniste, on était à 8%.
On était à 8% parce qu'on avait une récession atomique, parce qu'il a fallu dépenser dans tous les sens pour payer les frasques des banquiers. Je veux bien qu'on revienne sur les causes de creusement du déficit budgétaire. Je veux bien aussi qu'on revienne sur le fait que la dette publique française était de 62% en 2007 et qu'après les frasques financières, elle s'est retrouvée à 90%. Tu vas pas nous prendre comme point de départ.
Faut pas raconter n'importe quoi. Le soutien des banques en France rapporté 3 milliards d'euros à l'État français.
Écoute, c'est ça.
Le coût indirect. Non, mais je veux dire,
on ne peut pas dire ça.
Non, mais on ne peut pas reconstruire l'histoire en changeant les chiffres.
Je ne change rien. Quand je dis que la dette publique est passée de 60 à 90% après les frasques financières et leur explosion, je donne des chiffres absolument indiscutables.
Et après les 5 000 ronds-points du plan de relance.
Tu parles comme si c'est ça qui avait creusé la dette publique à ce niveau-là.
Ça a coûté.
Vous écoutez L'économie en question sur France Culture avec Dominique Rousset.
Le système des comptes dit le contraire.
Comme vous le voyez, on n'a pas essayé de leur couper la parole, c'est notre petit rappel.
C'est complètement faux ce que tu dis.
Alors, mouvement de colère, nous ne sommes pas loin de l'explication franche.
Trouver le bouc émissaire facile en changeant les chiffres, c'est facile.
Ah mais non, on ne peut pas dire qu'on change les chiffres.
Question, messieurs, on ne va pas vous mettre d'accord là-dessus. On essaie de se faire notre idée, ce n'est pas facile.
C'est le passé, on a déjà eu l'occasion d'en discuter à de nombreuses reprises. Je crois que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est la question que posait Dominique Plion lors de sa première intervention. On est à peu près d'accord sur les risques de la zone euro. Donc effectivement, c'est c'est pas brillant. On est en quasi-déflation, pas tout à fait, mais pas loin. On a des problèmes de chômage, on a des problèmes d'offres dans certains pays, on a une dette publique qui continue à augmenter, on a un gros déficit d'investissement, c'est tout à fait vrai. Si on regarde par rapport à 2007, pour le coup, les États-Unis sont bien au-dessus, nous bien en dessous. Donc, est-ce que, à travers ce processus chaotique, on arrive à aller cas à cas, parce que c'est vrai que ça restera chaotique à 28, on n'aura jamais la cohérence que peut avoir un État fédéral comme les États-Unis, mais est-ce qu'on va arriver à aller plutôt dans la bonne direction? Il y a quand même quelques indices positifs. Je pense que l'Allemagne a un jeu plus coopératif que ce qui est dit, puisqu'elle accepte des augmentations de salaires qui sont importantes, l'ordre de 3% par an.
Avec des grèves de ses syndicats, heureusement.
Oui, mais c'est vrai que c'est intervenu cette année, voilà, qu'il y a un progrès dans ce sens.
Et puis il y a le salaire minimum aussi.
Contrairement à ce que disait Patrick, il y a quand même des zones où elle peut faire des vrais investissements utiles. Je pense par exemple à tous les réseaux sur l'énergie, puisqu'elle a un énorme déséquilibre avec ses énergies renouvelables et le reste. Il y a un vrai problème de Nord-Sud. Et ça, c'est de l'investissement qui est efficace économiquement et socialement. Donc, il y a un certain nombre de choses à imaginer. Et l'Europe du Nord peut effectivement faire un peu plus. Et il y a un espace sans doute pour le faire. Ouais. De l'autre côté, il faut que l'Italie et la France débloquent les réformes sur des points cruciaux. Notamment le marché du travail.
Qu'on continue à leur réclamer. Royaume-Unis dans tout cela? On a pointé la colère de David Cameron qui refuse la petite rallonge qu'on lui demande. Alors c'est une raison un peu technique. On va peut-être pas donner, enfin, une explication rapidement si vous le souhaitez. Mais c'est le montant des contributions nationales pour 2014. On s'est rendu compte que, bref, l'Angleterre en devait un peu plus et c'est hors de question pour David Cameron. Là encore, une fronde qui ne sert pas à grand-chose ou une fronde qui peut donner des suites. Benjamin Coriat.
On a quand même. D'abord, c'est une vieille tradition. I want my money back.
Absolument, hein, absolument. Madame Thatcher.
Ensuite, clairement, Cameron est obligé de gérer ses eurosceptiques, UKIP, qui est en train de rogner sur son électorat. Donc, je pense, on verra bien, je pense que finalement, il s'inclinera. Mais il avait besoin de manifester cette grogne pour montrer que il n'y a pas que les eurosceptiques qui sont capables de s'opposer à l'Union européenne.
Sur le Royaume-Uni, l'agenda, il est purement politique. Cameron réfléchit en ce moment, et ça c'est une information un peu cachée, à avancer les élections à cause de la pression du UKIP. Il a l'autre échéance derrière qui est le référendum extrêmement dangereux qu'il a annoncé.
Il avait besoin de dire ça.
Et donc, très franchement, la logique aujourd'hui du Royaume-Uni, c'est une logique purement politique. Oui. Et pas tellement économique.
Oui. Sachant que la possibilité que l'Angleterre se trouve tout à fait marginalisée de l'Europe est très sérieuse et qu'il faut qu'il gère cette double difficulté-là, ces eurosceptiques d'un côté.
Mais s'il y a un référendum, il faut être clair, le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne. Le résultat est à peu près inéluctable.
Je ne crois pas que Cameron y soit très favorable lui-même.
Non, mais juste deux choses. D'abord, sur le Royaume-Uni, ça pousse vraiment complètement à avancer vers des institutions qui soient celles de la zone euro et pas de l'UE. Ça montre qu'il faut vraiment les deux cercles. Je crois qu'il y a un assez large consensus autour de ça. Le Royaume-Uni ne va pas participer à un programme de financement d'investissement public dans la zone euro. Ils n'ont aucun intérêt, ils n'ont pas cette vision-là du tout. Donc il faut accélérer la fabrication d'un double cercle d'institutions pour les pays qui sont dans l'euro ou pas. Et du coup, le problème anglais est assez marginal de ce point de vue-là. Non, je voulais revenir sur l'Allemagne. Est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent, plutôt que demander aux Allemands de relancer leur demande intérieure, et à nouveau, je pense qu'ils ne le feront pas ou très marginalement, de se dire que le vrai sujet, c'est l'utilisation de l'excès d'épargne des Allemands. Aujourd'hui, les Allemands ont 7 ou 8% de PIB d'excédent extérieur. Cet excédent extérieur est prêté au reste du monde. Il n'est absolument pas prêté au reste de l'Europe. Il était prêté au reste de l'Europe jusqu'à la crise, jusqu'en 2008. Et c'est lui qui a financé la bulle immobilière espagnole. Donc ça laisse de mauvais souvenirs aux Allemands. Mais aujourd'hui, l'excès d'épargne des Allemands ne vient pas financer le reste de la zone euro. Il est prêté.
C'est-à-dire que depuis la crise, ils ont décidé de ne plus financer
le reste de la zone euro. Ils ont toujours cet énorme excédent. Et cet excédent est prêté au reste du monde. L'objectif qui me paraîtrait beaucoup plus intéressant que de demander à ces malheureux Allemands de stimuler leur demande, alors que Nicolas l'a dit, les salaires augmentent déjà en termes réels de 2% par an, ce qui est beaucoup, ça serait d'essayer de réamener l'épargne des Allemands vers la zone euro. Et pour ça, il faut sans doute un peu d'imagination financière, par exemple en émettant des obligations de la zone euro suffisamment garantie, qui finance des investissements intelligents et qui ramènerait l'épargne des Allemands vers le financement du reste de la zone euro. Ça me paraît un projet beaucoup plus constructif que simplement de demander aux Allemands de relancer leur économie, ce qu'ils ne feront pas.
Ça rejoint l'idée que j'évoquais, et là on est d'accord, c'est qu'il faut en effet une politique européenne d'investissement public ou privé d'ailleurs, les deux, et notamment avec des financements appropriés. Oui. Mais je pense que c'est un peu utopique, parce que pour le coup, là, je renvoie la balle en disant les Allemands ne bougeront pas sur la demande intérieure, mais c'est aussi un peu utopique d'imaginer que les gentils financiers qui sont à la tête de ces créances vont tout d'un coup accepter d'aller investir dans...
Dominique, ces gentils financiers, c'est des assureurs vie
allemands. Oui, justement, mais ils pensent qu'ils vont surtout investir dans les émergents, ailleurs, ils ne sont pas intéressés. Donc, je pense qu'il faut envisager plus que ça. Il faut envisager des changements au niveau du fonctionnement de l'Europe et des institutions européennes d'une manière modeste. Par exemple, une agence européenne permettant de mutualiser une partie des déficits et aussi d'émettre de la dette européenne, c'est-à-dire des eurobonds, par exemple, ce genre de choses. Mais là, l'idée de penser que les financiers vont tout d'un coup, si on leur donne quelques avantages...
La réponse est si, bien sûr. Il y a eu un appétit considérable pour toutes les dettes européennes, que ce soit l'UE, que ce soit la Banque européenne d'investissement, que ce soit les fonds qui ont des noms barbares, y compris en Allemagne.
Oui.
Et donc, je pense qu'il y a un énorme potentiel d'émettre de la dette européenne, qui soit de la dette de l'UE ou de la zone euro, et pas des dettes des États, et que les Allemands souscriront ces dettes, et que si on fait un usage intelligent de cet argent, on a fait un énorme progrès.
On conclut sur ce sujet-là, Benjamin Goria,
oui,
très
non,
vite,
deux ou trois choses très brièvement. C'est vrai que la hausse des salaires en Allemagne, ça va un petit peu mieux, mais après une décélération d'une décennie qui a fait que les salaires en Allemagne ont augmenté de 7 à 8%, ou 10%, même si je me souviens bien, pendant que l'ensemble des salaires européens augmentaient, eux, de 27%. Donc, on est simplement dans un rattrapage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui fait que l'Allemagne bougera peut-être, mais je partage aussi le scepticisme de Patrick Artus, c'est qu'ils ont cru pouvoir s'en tirer et qu'ils découvrent qu'ils ne s'en tirent pas. Hein. Après avoir installé la récession européenne, les marchés émergents sur lesquels ils comptaient, la Chine, le Brésil, l'Inde, etc., le ramènent absolument pas ce qu'ils espéraient. Enfin, troisième point, et c'est vrai qu'on peut converger là-dessus, l'idée d'utiliser les surplus, non seulement allemands, mais européens. Il n'est absolument
mais
pas normal.
Mais c'est le même, hein, parce que le reste de l'Europe est équilibré. Hein.
Oui, enfin, il y a quand même aussi des surplus hollandais, etc. Bon, bref. L'idée d'utiliser ces surplus dans des grands programmes européens, notamment concernant la transition énergétique, ne me paraît pas une perspective totalement irréaliste. Il faut y réfléchir, il faut créer les conditions pour, mais c'est une possibilité.
Merci. Quelques propositions tout de même, enfin, de votre débat assez agité autour de ces questions de budget. Et je vous propose d'y revenir assez vite quand même avec cette nouvelle commission qui, donc, nous le rappelons, vient de se mettre en place avec tout de même des propositions. Et nous verrons, vous êtes tous assez sévères, je crois que c'est assez partagé sur l'ancien président de cette commission. Nous verrons ce qu'il en est des travaux des prochains commissaires, des nouveaux, avec leur président. On passe à notre deuxième sujet, lui aussi va peut-être vous diviser. En tout cas, il s'agit du modèle agricole français qui me semble questionné et au-delà par ces événements très récents auxquels nous assistons avec notamment cette affaire de la ferme des 1000 vaches, ce grand projet de ferme des 1000 vaches. Et je rappelle qu'il n'est pas le seul, il y en a bien d'autres en France, peut-être de moins grande dimension, mais qui sont comparables. Et puis cette affaire qui s'est terminée de façon très malheureuse, on le sait, avec la manifestation à Sivens autour d'un barrage destiné à l'irrigation pour un certain nombre de propriétaires. Peut-être deux mots avant de vous entendre sur tout cela. Est-ce qu'il ne faut pas changer de modèle? Et là aussi, je rappelle que dans le plan de projet de loi de finances présenté par le ministère de l'Agriculture, il y a vraiment une volonté d'infléchir notre agriculture vers, par exemple, l'agroécologie, de faire de la place à d'autres modes de production. Donc, je voulais quand même le mentionner. On verra avec quels moyens. Et puis, rappeler quand même que l'agriculture de la France, que nous sommes le premier pays agricole de l'Union européenne, on le sait sans doute déjà, mais c'est bon de le rappeler, 18% du produit agricole et agroalimentaire européen, 53% de la surface de la France et jusqu'à 75% dans des régions comme le Nord-Pas-de-Calais, par exemple. Seulement 3,4% de la population active totale est dans l'agriculture pour notre pays. Sur tout cela, est-ce que oui, non, ce qui est en train de se produire est le signe quand même d'une réelle remise en cause du modèle agricole.
Moi, je veux bien commencer.
Français puis mondial.
Je pense que d'abord, il y a une incohérence majeure dans la politique du gouvernement français, mais ça se retrouve aussi au niveau européen très largement. C'est que d'un côté, vous l'avez dit dans la loi qui vient d'être votée, on affirme la nécessité d'infléchir vers l'agroécologie, d'avoir une espèce de modèle, disons, d'agriculture durable, pour employer un terme très, très général. Et puis, en même temps, on laisse faire, et même on encourage, sans vouloir le dire publiquement parce que c'est assez impopulaire, on encourage l'installation de fermes, genre ferme des 1000 vaches. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est que je voudrais questionner, parce qu'on ne sera peut-être pas tout à fait d'accord, mais moi, je pense qu'on peut dire que la ferme des 1000 vaches, je me concentre sur la ferme des 1000 vaches, on pourra parler du barrage après, qui relève aussi la même objectif de ce qu'on pourrait appeler une agriculture productiviste. C'est que le bilan de ce type de ferme est extraordinairement contestable et mérite qu'on s'y attache un moment. Ces méga-fermes, en fait, ne sont rentables que si elles bénéficient de subventions publiques, ce qui est le cas en Hollande, aux Pays-Bas, très largement. Et elle s'appuie aussi sur, bien sûr, la création.
C'est un modèle un peu d'Europe du Nord, non, Dominique?
C'est un modèle d'Europe du Nord,
on peut le rappeler, parce qu'on en voit beaucoup,
effectivement. Pays-Bas, par exemple, ce genre de fermes sont beaucoup plus répandues que chez nous.
Ouais.
Et deuxièmement, leur point fort, si on peut dire, du point de vue de la rentabilité, c'est la méthanisation, en effet, des excréments.
C'est un projet agro-énergétique.
C'est un projet très largement, pas du tout agro-écologique, mais plutôt agro-industriel, et avec des effets tout à fait importants. Des effets sur... alors, prenons le lait, par exemple, puisque il s'agit de lait. Ça va augmenter le risque de surproduction. Sachant qu'en France, on a connu à plusieurs reprises des surproductions sans que ça fasse baisser les prix au niveau du consommateur. Donc, en fait, le consommateur ne profite pas du tout de ce système. Que ce système est très dépendant de l'extérieur. Une ferme comme celle-là va importer l'essentiel de ses tourteaux des États-Unis. Donc, problème par rapport à la balance extérieure. L'impact social, n'en parlons pas, ça contribue à réduire de manière régulière le nombre d'exploitations agricoles, dont certaines seraient rentables si il n'y avait pas ce type de concurrence. Et je terminerai sur l'impact environnemental. Deux choses à dire. D'abord, on sait peut-être que c'est un des outputs, des sorties, pardon, de cette production, c'est la méthanisation, mais aussi ce qu'on appelle les digestates, c'est-à-dire des excréments, enfin le retraitement de ces excréments et qui provient de la méthanisation et qu'on utilise comme engrais. Or, ce que disent les gens de l'INRA, par exemple, quand on lit leurs travaux, c'est qu'on ne sait absolument pas les conséquences à long terme de ce type d'engrais sur la qualité des sols et leur impact. Donc, il y a un risque là qui n'est pas du tout pris en compte. Et terminons aussi sur l'aspect écologique. Il y a un danger, c'est que si on détruit progressivement l'agriculture paysanne, ce qui sera le cas si on développe ce genre de ferme, on va vers une désertification et vers un problème par rapport à l'entretien des sols, à l'entretien des paysages, etc. Et ça, c'est un élément tout à fait déterminant par rapport à l'équilibre écologique du 21e siècle. Donc là, je pense que ce genre d'exploitation agricole,
on a
un
compris.
Bilan global, écologique, économique, social,
vous
etc. Qui est... Oui, mais il est étonnant de voir que le gouvernement laisse faire, soutient ce genre d'exploitation.
Vous n'avez pas ajouté un autre élément qui prend de l'importance, et je trouve que c'est bien normal, le bien-être animal.
Ah, oui, bien sûr.
Non, je le dis parce que c'est vraiment quelque chose qui monte en puissance dans beaucoup de pays, développés d'abord, bien entendu. Nicolas Bavret prépare sa réponse. Patrick Artus?
Je crois qu'il faut essayer peut-être de se dire qu'on va avoir deux agricultures et qu'on n'a peut-être pas besoin d'un modèle agricole unique, ce qu'avait l'air de dire plutôt Dominique. Il y a déjà une agriculture en France qui est du luxe, quoi. C'est-à-dire si c'était de l'habillement, on parlerait de luxe. Donc c'est le vin, un certain nombre de productions bovines, par exemple, production céréalière. Là, on est dans la haute technologie, production céréalière française avec des rendements très élevés. Dans le vin, dans tout ce qui est AOC, on est dans le luxe. Ça marche très, très bien. C'est ça qui dégage des excédents extérieurs.
Donc ça s'exporte.
Ça, c'est le vin. On a vu cette année que la France est redevenue le premier producteur mondial. Ouais. Enfin, donc, on a une filière de luxe qui marche très, très bien. Et finalement, après tout, on pourrait faire un parallèle à l'agriculture et le reste de l'économie. Ce n'est pas très différent. Le luxe dans le reste de l'économie marche très bien. Ce qui ne marche pas du tout, c'est la filière, je dirais, industrielle. C'est-à-dire, c'est le moyen bas de gamme. Et là, on a quelques exemples. Les fruits et légumes, toute la filière porcine, qui est le problème essentiel en Bretagne. Et là, on a un problème qui est que cette filière industrielle n'est pas rentable. Elle n'est pas rentable parce que d'abord, elle a des productivités beaucoup plus faibles que les concurrents. exemple, là, dans les fruits et légumes, la productivité, c'est la moitié de celle des Pays-Bas ou de l'Espagne. Hein, et, donc on peut... et deuxièmement, parce qu'elle a des coûts salariaux élevés. Hein, c'est quand même, il y a beaucoup de... Et donc, la question, c'est, voilà, est-ce que... je vais peut-être essayer d'ouvrir le problème. Est-ce qu'on fait ce que dit Dominique, c'est-à-dire finalement, on ne fait que le luxe, en disant finalement, il y a des pays... c'est un peu ça quand même. C'est-à-dire que, on voit bien que...
c'est pas du luxe.
Bah si, ils s'en tireront que s'ils font du haut de gamme, tu vois. Parce que si, paysans, petite exploitation familiale...
C'est une organisation de filière.
Ouais, mais je crois que c'est très compliqué. On est concurrent, effectivement, des Pays-Bas, de l'Espagne, de l'Allemagne, qui ont totalement industrialisé le milieu bas de gamme.
Mais qui fonctionnent grâce aux subventions.
Qui sont rentables. Et qui sont rentables, qui ont des productivités le double de celle de la France. Donc, est-ce qu'on se dit qu'on va faire que du haut de gamme et qu'on va laisser le bas de gamme au Brésil, aux grands pays, aux États-Unis, ou est-ce qu'on essaie de réfléchir à l'existence rentable d'une filière moyen bas de gamme industrialisée avec toutes les contraintes d'environnement? Mais aujourd'hui, cette filière est archi non rentable, donc elle va disparaître.
Ce que nous dit Patrick Artus, c'est aussi que notre agriculture nationale est au cœur de la mondialisation, qu'elle le souhaite ou non. Ben, voilà.
Il se pose une question de spécialisation comme elle se pose pour l'industrie.
Réponse aux commentaires de Benjamin Coria, puis Nicolas Bavret qui a également travaillé sur cette question.
Quelques remarques. D'abord, il faut mettre cette histoire de 1000 vaches et plus généralement la question de l'agriculture française ou européenne en perspective historique. Parce que sinon, je pense qu'on ne comprend pas. Bon, et donc, la perspective historique, c'est quoi? C'est de dire qu'après la guerre, l'Europe s'est trouvée en panique d'être en insuffisance alimentaire intérieure, si je peux dire. Et que donc, elle a développé une politique industrielle, passez-moi l'expression, d'enfer, qui s'est appelée la PAC, pour permettre l'augmentation des productions et assurer son autonomie alimentaire. Ce qui avait des dimensions positives et pouvait être compris. Le problème, c'est que à partir d'un certain moment, ce rattrapage a été plus que fait, bien, et qu'on a continué avec cette politique.
Pas tout à fait, on a quand même réformé la PAC, on est en train de le faire.
C'est la troisième étape.
D'accord.
Hein. Donc on a continué et on a financé nos excédents alimentaires à des hauteurs absolument extrêmement élevées. On a détruit des agricultures vivrières du Sud en subventionnant nos propres exports. Et puis est venu le moment des révisions de la PAC, dans lesquelles on a commencé à envisager des inflexions avec de la mise en jachère, avec de la diversification, avec etc. Bien. Et donc, de ce point de vue, je partage pas forcément la vision agriculture de luxe, agriculture 1. Bon, il y a plutôt agriculture basée sur la grande industrialisation et une agriculture plus orientée vers les terroirs, plus orientée vers...
Vers la qualité aussi.
Voilà, vers la qualité. Et on est à mi-chemin, si je peux dire. Alors, la ferme des 1000 vaches, c'est une espèce de résurgence du très vieux modèle. Et ça s'explique, là-dessus, je suis d'accord avec Patrick, Patrick Artus, oui, par le fait que, en partie, l'Allemagne, etc., s'est mis à faire du bas de gamme, s'est mis à faire de l'agriculture hors sol avec beaucoup d'efficacité, hein, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais l'Allemagne a passé la France en matière d'excédent agricole. C'est tout à fait insensé, cette histoire. Mais à condition qu'on appelle agriculture ce que fait l'Allemagne, hein, c'est-à-dire de l'abattage hors sol, du bas de gamme, tous azimuts, etc. Donc voilà pourquoi c'est embêtant 1000 vaches, parce que je suis parfaitement d'accord avec l'analyse de Dominique, c'est une espèce de résurgence d'un modèle absurde, qui nous vient d'une certaine manière du passé, et c'est vrai que c'est très ennuyeux de laisser faire des choses comme ça, et de continuer à se battre pour la PAC, parce que la seule PAC possible, c'est une PAC de rénovation de l'agriculture, pas des 1000 vaches.
Non, mais ça pose quand même, Benjamin, la question de savoir si on peut être entièrement dans le haut de gamme, ce que tu appelles le terroir, mais c'est pareil.
Non, mais là où on a une différence, si je peux dire, c'est qu'on peut faire du terroir et du circuit court qui est simplement de couper un certain nombre d'intermédiaires et de permettre à des paysans territorialement localisés de survivre, même avec des petites exploitations.
Vous écoutez l'économie en question sur France Culture avec Dominique Rousset.
Et Nicolas Bavrès, Dominique Plion, Patrick Artus et Benjamin Coria, dont je n'ai pas eu le temps tout à l'heure dans la confusion de rappeler les noms, et nous parlons d'agriculture, de modèle agricole français. On n'a pas encore entendu Nicolas Barré à ce sujet. Il me semble d'ailleurs que vous n'avez pas mentionné les uns et les autres également la révolution des biotechnologies, dont la France, comme les autres, est partie prenante. Nicolas Barré.
Alors ça fait partie effectivement des grandes évolutions. Ces projets de... Et effectivement, ces mouvements sociaux autour des projets de la ferme des 1000 vaches ou du barrage de Sivens, c'est vrai que, comme souvent, ça permet de traiter des questions plus larges. Donc il y a la première qui est les infrastructures. Tout le monde en veut, mais on voit que ce n'est pas si simple et qu'il faut les choisir avec soin. La deuxième chose, ça montre que l'eau est une ressource rare. On oublie souvent que c'est quand même une matière première sur laquelle il y aura beaucoup de tensions au XXIe siècle. Et donc, comment on partage les usages entre l'hydroélectricité, entre l'agriculture, le tourisme et évidemment le reste. Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième,
ça nous ramène au barrage de Sivens.
Et voilà. Et la troisième, c'est bien sûr l'affaire du modèle agricole. Donc, vous l'avez rappelé, aujourd'hui, on ne peut pas regarder l'agriculture française en vase clos. Donc, les marchés agricoles sont en réalité assez peu développés parce que ça fait 15% à peu près de la production mondiale, la partie vraiment échange. Donc, ça reste assez cloisonné. Mais l'arrivée, effectivement, des superpuissances type Brésil change beaucoup les choses. Deuxième, évidemment, contrainte, le climat, l'écologie. Pour la question de l'eau, c'est très important. Prenons l'exemple de la Chine. C'est 22% de la population mondiale. C'est 7% des terres cultivables. Et c'est moins de 10% des ressources d'eau. Donc, ouais. On voit très bien pourquoi, par exemple, les Chinois sont assez désireux de garder le Tibet, qui est leur seule réserve d'eau, sur leur territoire. La révolution technologique, donc la fameuse question des OGM, et pas seulement. Et le dernier élément, et c'est pour ça que la ferme des 1000 vaches n'est pas seulement un projet du passé, c'est le rapprochement de l'agriculture et de l'énergie. Et ça, c'est ce qui explique que l'Europe du Nord, qui a par ailleurs pas d'espace, donc nous on a ce privilège d'avoir de l'espace, mais les pays qui n'ont pas d'espace, évidemment, se sont engagés dans ce type de projet. Alors à partir de ce moment-là, le modèle agricole français, il y a eu en plus des étapes rappelées par Benjamin Coria tout à l'heure, il y a eu l'exode rural qui a été pour nous le premier choc, puisque la France était encore en 1945 un pays très largement rural. Et puis ensuite, on l'a dit, la PAC, le modèle productiviste, le moment où on a voulu découpler les subventions de la production. Et maintenant, on a de fait, la France est dans un entre-deux et elle a finalement les deux problèmes sur les deux aspects qui ont été mentionnés, c'est-à-dire le problème sur la compétitivité, sauf les filières céréales, et le problème quand même sur la qualité, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu un certain nombre de crises sanitaires qui ont même déstabilisé...
Et la pression, sociale est forte. Je parlais du bien-être animal, mais elle l'est aussi sur la qualité des produits, sur la malbouffe, sur les dégradations environnementales.
On a eu plusieurs crises,
les uns et les autres.
La question qui se pose, c'est que par ailleurs, ce système est effectivement hyper subventionné par la PAC, mais aussi il y a des subventions nationales très importantes.
Bien sûr, parce qu'on a renationalisé une partie de la PAC. Oui.
On a renationalisé une partie de la PAC, donc c'est un pilier fondamental de l'économie française, comme on l'a dit. Comment est-ce qu'on traite le problème de compétitivité et le problème de qualité ? Et c'est vrai qu'ensuite, ce qui est compliqué, c'est que ça se joue filière par filière, parce que, par exemple, sur l'agriculture dite de masse, la France est très performante sur la céréale.
Va-t-on garder deux agricultures ? Une qui privilégierait les productions locales, les filières, la logique peut-être de ramener un peu sur des régions.
Oui, mais ce n'est pas entièrement...
Et celle que vous décrivez qui va rentrer dans le jeu de la mondialisation.
Mais de toute façon, elle est déjà dans le jeu de la mondialisation.
Mais qui va rester dans le jeu.
Je vous rappelle qu'on a créé les fameuses bourses de pays dérivés à Chicago à partir du blé. Donc, il y a toute une partie de l'agriculture qui est dans le marché. Il y a même toute une partie des produits financiers qui ont été inventés à partir des marchés agricoles.
Chicago,
Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Et on ne va pas enlever les céréaliers du marché mondial. En revanche, c'est vrai qu'il faut sûrement, et c'est la grande question des OGM, parce qu'une des raisons d'être des OGM, c'est l'économie de l'eau. De permettre d'économiser de l'utilisation de l'eau ou de certains engrais. Et par ailleurs, le développement des filières de qualité. Mais là, ce que disait Patrick Artus est vrai, c'est-à-dire qu'il y a des consommations locales sur lesquelles on peut aller plus vite et avoir aussi un avantage. Mais dans beaucoup de cas, l'agriculture dite de terroir, ce n'est pas une agriculture bon marché. Parce que
concilier
les deux modèles, Dominique Pillon.
Je prétends, et j'affirme, peut-être que je me trompe, que le modèle industriel que représente la ferme des 1000 vaches, puisque c'est ça dont il s'agit, est un modèle non rentable. Si on prend en compte tous les coûts et toutes les dimensions de ce modèle, ses coûts économiques, sociaux, environnementaux, etc. Et qu'il est rentable, alors il y a la dimension, bien sûr, et très intéressante, hein, de, énergétique.
Le donc, lien de l'énergie est très intéressant.
Tout à fait important.
Oui, mais est-ce que c'est la fonction de l'agriculture de faire de l'énergie? Je crois qu'il y a une vraie discussion là-dessus.
Je pense qu'il a été montré par un certain nombre d'études, qu'on peut contester évidemment, que même aux Pays-Bas, ce type d'exploitation n'est rentable qu'en grande partie grâce à la méthanisation, mais aussi grâce aux subventions.
Oui, mais des subventions agricoles, il y en a partout.
Ah ben oui, mais alors à ce moment-là, ce modèle n'est pas rentable.
L'essentiel des subventions vont vers
les grandes exploitations. Du coup, on dit que les petites exploitations sont moins rentables.
Dans tout le monde développé, c'est massivement subventionné.
Il n'est pas juste de dire que les petites ou moyennes exploitations agricoles sont plus coûteuses. Je pense que la qualité qui est produite, par exemple, de lait ou de fruits, etc. Et bien sûr, il y a des gains de productivité qui sont moindres, mais je pense que les gens préfère une agriculture de proximité avec... Et je pense que c'est aujourd'hui un souhait. Et juste, terminons sur la question de l'aménagement du territoire. Ça rejoint la question du barrage. Le territoire doit être préservé. Il peut être préservé que par une agriculture bien dispersée, bien occupant le territoire. Si on crée de la désertification avec des grandes fermes, par exemple, on va ruiner le territoire. Et donc ça, c'est un coût qu'évidemment, on ne prend pas en compte. Les investisseurs ne prennent pas en compte, évidemment, dans le calcul privé, mais que les citoyens et les politiques doivent prendre en compte. Et ça, c'est un élément central.
Il est assez significatif de voir la division des syndicats agricoles eux-mêmes, hein, Confédération Paysanne, celle qui, je le rappelle, a été condamnée notamment pour sa dégradation de la salle de traite.
Démontage de la salle de traite.
Chacun son vocabulaire, pardon.
C'est celui de la Confédération.
C'est vrai. Donc, et en face, la FNSEA qui, quand même, comprend.
Son patron est un grand exploitant à caractère industriel et financier.
Qui défend la liberté d'entreprendre.
Je voudrais donner
l'avis de tous les syndicats.
Oui. Juste un chiffre. On a beaucoup dit, et c'est tout à fait exact, que l'agriculture est extraordinairement subventionnée et que ça continue. Bien. Juste un chiffre. 80% des subventions vont à 20% des entreprises. Bon, et évidemment, pas les plus petites.
C'est toujours vrai, ça.
Voilà. Donc, si vous voulez, il y a aussi du courage et une réflexion à avoir sur comment on répartit ces subventions. Et c'est vrai que ce n'est pas la FNSEA qui va nous aider à ça. Hein.
Merci, Patrick Artus.
Oui, j'aurais juste introduire la dimension globale. Il y a un travail de la FAO qui est assez intéressant.
L'Organisation mondiale pour l'alimentation.
Si on utilise les technologies agricoles existantes, au mieux, on pourra nourrir 9 milliards de personnes sur la planète. Hein, et qu'au-delà, ça devient radicalement impossible. Donc, de toute façon, il va se poser. Et ceci tient d'ailleurs à des évolutions qui ne sont pas forcément bonnes, mais qu'on est obligé de constater, qui est l'évolution des pratiques alimentaires dans les pays émergents, en particulier en Asie, avec une pratique alimentaire qui se rapproche très très vite des pratiques alimentaires occidentales. Ce qui croît énormément, par exemple, c'est la consommation de bœuf et de blé dans les pays d'Asie. Et donc, ils changent complètement leurs pratiques alimentaires, dans un sens qui n'est pas bon, parce que c'est des pratiques alimentaires qui nécessitent plus d'espace que celles qu'ils avaient avant, qui étaient le riz et le mélange cochon-volaille. Hein. Donc, mais bon, c'est comme ça. L'élévation du niveau de vie change les pratiques alimentaires et aggrave le problème. Donc, une question globale qui est que, de toute façon, il va falloir que quelqu'un se dévoue sur le reste de la planète pour augmenter la productivité de l'agriculture. Alors, il y a du potentiel encore de terres non exploitées. Hein, Russie, Ukraine, on pourrait sûrement faire beaucoup plus.
Afrique,
mais il y a des potentiels de productivité en Chine, mais quand même, à un certain moment, tous les calculs qui sont faits sont montrés qu'il va falloir passer à des techniques beaucoup plus intensives et beaucoup plus productives. Donc je repose la question du début en disant on peut très bien décider qu'on ne le fait pas nous, hein, c'est-à-dire qu'on va laisser faire ça aux Russes, aux Brésiliens, aux Indiens.
Et sur le plan mondial, il y a un autre aspect qui est très important.
Mais mondialement, ça se fera.
C'est que sur le milliard d'hommes qui restent très pauvres, il y a 77% d'agriculteurs. Donc,
l'importance de l'agriculture vivrière.
C'est un des paradoxes.
On a le double impact. Il faut produire pour arriver à nourrir les hommes qui vont continuer à augmenter. Et en même temps, il faut faire des gains de productivité qui permettent aussi à des gens qui aujourd'hui se retrouvent en situation de grande pauvreté d'avoir le moyen de vivre dignement.
Bien sûr. Et c'est vrai que c'est un fait. La population pauvre est très largement représentée chez les paysans.
Rappelons que les paysans
des pays du Sud.
Les paysans africains qui ont été ruinés, ils ont été ruinés par quoi ? Par l'ouverture des frontières, par la concurrence que leur font des pays à haut niveau de productivité. Donc, quand on dit développons l'agriculture productiviste, je pense que c'est. Le passé a montré que c'est un facteur de ruine pour une partie des agriculteurs
aussi,
qui aujourd'hui.
Il y a aussi quelques pays d'Afrique qui ont une croissance très très forte grâce à l'agriculture, le Kenya, la Tanzanie,
etc. Bien sûr, c'est pas général.
Ils sont passés eux-mêmes à des modèles productivistes à leur tour.
Et nous avons cité le nom d'agroécologie. Et vraiment, je vous renvoie, il y a beaucoup de textes très intéressants à ce sujet. C'est quand même un modèle, là encore, qui semble défendu par notre ministre de l'Agriculture avec les moyens dont il dispose, qui ont un peu baissé.
Il espère pour la ferme des mille vaches, donc il est un peu contradictoire.
Mais voilà, il y a quelques contradictions. Merci à tous les quatre. On en reste là sur ce très vaste sujet sur lequel on aura sans doute l'occasion de revenir aussi. Quelques actualités invisibles, en avez-vous préparé les uns les autres? Qui veut commencer? Je vois Nicolas Bavret.
On a eu cette semaine le résultat des stress tests pour les banques européennes, donc qui ont été conduits par la Banque Centrale Européenne. C'est important parce que l'union bancaire depuis la monnaie unique, c'est la plus importante étape d'intégration supplémentaire qui a été faite dans la zone euro. Et je voulais donner les hypothèses pour la France. Donc les banques françaises se sont plutôt bien comportées, mais les hypothèses du scénario noir, c'est hypothèse de chômage de 12% en 2016, moins 0,3% pour la croissance, un krach boursier avec une baisse des cours de 20%, et des taux d'intérêt qui sont remontés à 3,8%. Ce que je voulais simplement dire, c'est que donc c'est une évolution, un choc important, mais qui reste, j'allais dire, la moitié de celui de 2009. Par exemple, si on prend les cours boursiers, en 2008, on a fait moins 43%. Alors, on peut tous espérer qu'on ne va pas avoir une grande crise du capitalisme tous les 10 ans ou et une crise de la zone euro également tous les 5 ans. Mais je trouvais intéressant d'avoir ces hypothèses.
Ouais. C'est vrai que ça n'avait pas été ajouté au bon score français, en effet. Merci Nicolas Bavret. Benjamin Coria, à votre tour.
C'est une vraie bonne nouvelle, si je peux dire.
Ah, merci, j'aime bien en fin d'émission.
Voilà. C'est une équipe de chercheurs et de cliniciens de Nice qui a mis au point un test préventif, si je peux dire, préalable du cancer à partir d'un simple prélèvement sanguin. Alors, la technologie, sans rentrer dans les détails, la technologie, c'est que on détecte la présence de certaines cellules qui sont annonciatrices de la venue du cancer. Alors, pour le moment, on en est à la preuve de concept, si je peux dire, mais c'est porteur de grands espoirs. Voilà.
Et ça se passe en France.
Une autre bonne nouvelle, Benjamin Coria, parce qu'on n'a pas été très optimiste dans cette émission peut-être, mais là, une bonne nouvelle, c'est que cette semaine a été conclu un accord multilatéral pour l'échange automatique d'informations financières entre les pays, notamment à visée fiscale. Et donc, on peut dire qu'il y a un progrès quand même intéressant, et on n'aurait pas pensé que ce progrès était possible il y a quelques années encore, en matière de lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, ce qu'on réclame depuis longtemps. Et là, c'est très bien. Et c'est sous l'égide de l'OCDE. Bon, bravo, pour une fois...
Et c'est le porte-parole d'Attaque qui nous le dit. Merci Dominique Plion. Patrick Artus, allez, on termine avec vous très très vite.
Donc on a eu l'élection présidentielle au Brésil la semaine dernière. Je voulais juste montrer à quel point le travail de Dilma Rousseff va être compliqué. La production industrielle au Brésil a baissé de 6% en un an, ce qui reflète l'ensemble des maux de ce pays, les problèmes d'éducation, les problèmes de transport, d'infrastructures publiques. Donc il y a un travail tout à fait considérable qui va devoir être fait et que malheureusement elle n'a pas commencé dans son précédent mandat.
Merci, c'était donc Patrick Artus avec Dominique Plion, Nicolas Bavret et Benjamin Coriat aujourd'hui. De Dominique Plion, je voudrais signaler, mais il ne l'a pas écrit tout seul, l'économie mondiale en 2030, rupture et continuité, c'est paru chez Economica, ça vient juste de sortir. D'autres titres d'ailleurs de nos invités que vous pourrez trouver en vous reportant sur notre site franceculture.com, l'économie en question, où vos commentaires sont attendus, bien entendu, sur tous les sujets dont nous parlons. Merci à toute notre équipe. Ghislaine David réalise l'émission aujourd'hui avec Clément Daté. Et un salut à Laurence Genepin qui assure, comme chaque semaine, la préparation et la documentation. Et à suivre, ce sera une fois pour toutes, Dominique Souchier.